Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la rubrique suivante, magazine culturel, et ensuite l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant le journal.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Salutateur, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le président de la France invite le président indonésien à visiter Paris. La Suède étudie la possibilité de coopérer avec le gouvernement de la ville de Probolinggo en matière de déchets. L'Indonésie veut apprendre du Brésil sur le déménagement de la capitale. L'Indonésie et Singapour prévoient d'organiser un exercice de recherche et de sauvetage conjoint en septembre aux îles de Réunion. Les États-Unis vont former une coalition militaire dans les eaux du Golfe. Sri Lanka devient un pays libre de rougeole. Et enfin, la Grande-Bretagne et le Canada sont l'hôte de la conférence sur la protection des médias. Voici le journal complet. Après la visite historique du président français à Jakarta en 2017, la France continue de renforcer ses relations bilatérales avec l'Indonésie dans tous les domaines. À propos de l'intensification des relations, l'ambassadeur de France en Indonésie, Jean-Charles Bertonnet, dans une interview pour La Voix d'Indonésie à Jakarta mercredi, le 10 juillet, a déclaré qu'après la visite du président français François Hollande, on espérait qu'il y aurait une visite réciproque du président indonésien Joko Widodo. C'est pourquoi, selon l'ambassadeur Jean-Charles Bertonnet, le gouvernement français invite le président Joko Widodo cette année à assister à un événement réunissant les dirigeants des grands pays du monde à Paris.
Le président Jokowi est invité au forum de au Paris Peace Forum, au forum de Paris sur la paix, qui se tient, dont la première édition a eu lieu l'année dernière, le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour marquer notre engagement en faveur de la paix et du multilatéralisme qui est un petit peu menacé en ce moment, le président Macron a décidé d'inviter des chefs d'État et de gouvernement de grands pays. Et Dieu sait si l'Indonésie est un grand pays.
L'ambassadeur Jean-Charles Bertonnet a également déclaré que le gouvernement français a félicité l'Indonésie pour la tenue des élections simultanées et l'élection de Joko Widodo pour un second mandat à la tête de l'Indonésie. Selon l'ambassadeur, les élections simultanées en Indonésie étaient très uniques avec divers obstacles, comme tenu du vaste territoire de l'Indonésie. La France pourrait apprendre le modèle électoral simultané mené par l'Indonésie. La démocratie commence à se développer en France à la fin du XVIIe siècle, mais la France n'a jamais tenu les élections simultanées. Bernard Lundgren, le directeur adjoint de la Société régionale de gestion des déchets en Suède, et Jessica Magnusson du Global Business Development Vera Park étudient une coopération avec le gouvernement de la ville de Probolinggo, Java Oriental, dans le domaine de la gestion des déchets. C'est ce qu'a déclaré Ari Puspita, le haut fonctionnaire de la ville de Probolinggo, mardi à Probolinggo. Selon lui, l'équipe suédoise enverra également des courriers électroniques au gouvernement de la ville de Probolinggo concernant les données dont ils ont besoin pour une évaluation plus approfondie de la gestion des déchets en amont et en aval, en particulier des déchets qui peuvent encore être considérés économiquement où chaque étape a une valeur. Jessica Magnusson a déclaré que, selon les résultats de sa visite sur le site de stockage définitif, il reste encore des problèmes à résoudre liés à l'installation de biogaz. Les tuyaux qui se trouvent dans le site de stockage final ne sont pas maximisés. On espère que le gouvernement de la ville de Probolinggo pourra réparer le système de tuyauterie afin qu'il puisse produire du gaz destiné à la production d'électricité. Le ministre de la Planification du Développement National, en tant que chef de l'Agence indonésienne de planification du développement national, Bambang Brojonegoro, a déclaré mercredi à Jakarta que le transfert de la capitale n'était pas de nouvelle chose pour les pays du monde. Le Brésil fait partie des 30 pays qui ont déménagé avec succès leur capitale. Et l'Indonésie peut apprendre des pays qui ont des similitudes comme le Brésil. Les deux pays sont les membres du G20 et sont connus pour avoir le plus grand produit intérieur brut. Les régions d'Indonésie et du Brésil sont aussi les plus grandes du monde. L'Indonésie peut apprendre du Brésil en raison de sa motivation pour renouveler la fierté nationale par la construction d'une capitale moderne au XXIe siècle. L'Indonésie et Singapour organiseront un exercice conjoint de recherche et de sauvetage, ou SAR, sur la gestion des accidents d'aviation en septembre 2019 dans la région de Tanjung Pinang, les îles Riau. Le directeur de la préparation de l'Agence indonésienne de recherche et de sauvetage, ou Basarnas, Didi Hamzah, a affirmé qu'il est important pour l'Indonésie pour intensifier la coopération à travers l'exercice de SAR avec Singapour, compte tenu des catastrophes ou des incidents se produisent potentiellement dans des temps inattendus. Le directeur de la division des services de la circulation aérienne de Singapour, Rosli M. Desaat, a confirmé que dans cette coopération, sa partie priorisait les missions de secours en cas de catastrophe ou de catastrophe similaire dans les régions de Singapour et d'Indonésie. Rosli espère que la coopération qui est établie depuis 66 ans renforce plus les relations entre les deux pays, notamment en ce qui concerne SAR. Les États-Unis ont demandé à leurs alliés de former une coalition militaire pendant 2 semaines afin de protéger les eaux stratégiques de l'Iran et du Yémen. Les États-Unis fourniront des navires de commandement et dirigeront les efforts de surveillance de la coalition militaire. Joseph Dunford, le chef d'état-major de l'armée américaine commune, a déclaré mercredi à Washington que les alliés patrouilleraient les eaux à proximité des navires de commandement américains et escorteraient les navires de commerce avec le drapeau de leur pays. Il a dit que dans les prochaines semaines, sa partie identifierait les pays qui ont la volonté de soutenir l'initiative de la coalition militaire. En outre, l'armée américaine identifiera également des capacités spéciales qui soutiendront le plan. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le Sri Lanka avait réussi à éliminer la rougeole et à contrôler la rubéole. Ainsi, ce pays devient le 4e pays de la région asiatique à s'être libéré de la menace de la rougeole. Le dernier cas de rougeole découvert au Sri Lanka s'est produit en mai 2016. Cité par Republika Online mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a apprécié le succès de Sri Lanka dans l'élimination de la rougeole et la lutte contre la rubéole. Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, Poonam Ketrapal Singh, a déclaré que le Sri Lanka avait réussi à montrer l'engagement du pays, la détermination des travailleurs médicaux et des parents à protéger les enfants de la rougeole. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, et la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, sont l'hôte de la conférence discutant de la question de la protection des journalistes et des médias à Londres. Des politiciens, des responsables, des activistes et des journalistes de plus de 100 pays ont assisté à la réunion. Le gouvernement britannique a annoncé mercredi sur son site web officiel que de grands médias russes, Sputnik et RT News, avaient été interdits d'assister à cette réunion en raison de leur rôle actif dans la diffusion de fausses informations. Comme cité par Republika Online jeudi, cette conférence examinera les défis qui sont confrontés à la liberté de la presse, les opportunités qui peuvent être faites pour créer un environnement plus sûr pour les journalistes. L'événement qui se tiendra du 10 au 11 juillet discutera 4 thèmes de base. Les 4 thèmes sont la protection et la persécution, y compris l'impunité des journalistes, le cadre national et la législation, bâtir la confiance dans les médias et lutter contre les désinformations, ainsi que la durabilité des médias. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Augmenter la contribution des coopératives au PIB ». Le 12 juillet est la journée indonésienne des coopératives. En Indonésie, le rôle des coopératives est très important pour la vie économique de la communauté. Les Indonésiens ont ressenti les avantages des coopératives, en particulier pour résoudre les problèmes économiques rencontrés. Sans surprise, de nombreuses coopératives se sont aujourd'hui largement répandues dans de nombreuses villes et régions d'Indonésie. Selon les données 2018 du ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, le nombre des coopératives en Indonésie est 138 000. Ce montant n'a pas encore contribué de manière significative au développement national. La contribution des coopératives au développement, en particulier au produit intérieur brut ou PIB, reste relativement faible, environ 4%. Le président Joko Widodo espère que les coopératives apporteront une contribution significative à l'économie nationale et même qu'il y aura une coopérative internationale en Indonésie. Dans son discours à l'occasion de la journée des coopératives de l'année dernière, le 12 juillet 2018, le président Joko Widodo a encouragé les cadres des coopératives à étudier le système des coopératives multinationales modernes dont le chiffre d'affaires est de plusieurs centaines de trillions par an. En étudiant le système des coopératives modernes, le président Joko Widodo espère qu'il y aura des coopératives en Indonésie classées au niveau des 100 plus grandes coopératives du monde. Entrer dans les 100 plus grandes coopératives du monde n'est pas facile. Néanmoins, les coopératives indonésiennes ont la possibilité d'obtenir la grande part de marché. Ainsi, les coopératives doivent cibler la génération de millénaires en s'ajustant aux personnages de la génération de millénaires qui aiment la technologie. Sur cette base, les coopératives doivent innover en matière de technologie. La technologie augmentera la confiance des membres, en particulier ceux du millénaire, car dans le domaine de la gestion, la technologie en ligne peut contrôler les coopératives et réduire les risques de fraude. Les coopératives en ligne augmenteront et faciliteront la plateforme d'achat en ligne pour ses membres. En outre, les coopératives doivent appliquer des normes de services et des produits de haute qualité, ainsi que pour concurrencer à la satisfaction et créer la prospérité des membres. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 juillet, la journée mondiale de la population. La journée mondiale de la population a été commémorée en 1989 par le programme des Nations Unies pour le développement. La détermination de la date a été inspirée par la journée de 5 milliards au 11 juillet 1987. Date estimée lorsque la population mondiale atteignait 5 milliards de personnes. La Journée mondiale de la population vise à sensibiliser le public à diverses questions de population telles que l'importance de la planification familiale, l'égalité des sexes, la pauvreté, la santé maternelle et des droits de l'homme. Le 11 juillet 1995, les troupes serbes effectuent des massacres à Srebrenica. Le 11 juillet 1995 restera à jamais marqué par la mémoire de Bosniaque. Ce jour-là, les forces serbes ont systématiquement massacré plus de 8000 hommes et les jeunes musulmans de la région Srebrenica, la Bosnie, été menée par les forces serbes dirigées par le général Ratko Mladic. En 27 février 2007, la Cour internationale a fixé cet incident comme génocide. Le général Mladic est devenu le fugitif international pour avoir été reconnu coupable de génocide de d'autres crimes de guerre en Yougoslavie. Le 11 juillet 2010, l'Espagne a remporté le premier trophée de la Coupe du Monde. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, qui s'est déroulée le 11 juillet, l'Espagne a renversé les Pays-Bas en prolongation le temps. Andrés Iniesta a marqué le seul but à la 116e minute. Le but qui a finalement conduit l'Espagne aux champions du monde pour la première fois, tout en réalisant leur mission d'épouser la Coupe d'Europe avec la Coupe du Monde. L'Espagne, qui a remporté la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec le statut de champion d'Europe 2008, a été en mesure de remporter la victoire après la victoire en route vers la finale. Ils ont renversé des équipes de tête telles que le Portugal, l'Allemagne et l'Uruguay pour rencontrer les Pays-Bas en finale. C'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Mon choix, chantée par Malik and the Essential. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutez maintenant Modernisie. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Modernisie, intitulée « Améliorer le rôle des chercheurs et des conservationnistes sur la faune sauvage indonésienne au niveau mondial ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts, en collaboration avec l'Institut d'Agriculture de Bogor, ou IPB, a organisé un atelier pour rencontrer des chercheurs et des conservationnistes de la faune sauvage indonésienne tenu à IPB International Convention Center à Bogor lundi. Cette activité vise en outre à renforcer les capacités de chercheurs indonésiens sur la faune sauvage, à améliorer le réseau de travail, maximiser les capacités de l'Indonésie dans le domaine de la diplomatie de la conservation internationale. Le directeur général de la conservation des ressources naturelles et de l'écosystème du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Wiratno, a déclaré « Actuellement, environ 75 chercheurs activistes de la vie sauvage indonésienne qui sont actifs au sein de divers groupes de spécialistes de la Commission de survie des espèces, ou SSC, créée par l'Union internationale de conservation de la nature, ou UICN. Ce nombre est en réalité faible parce que beaucoup de groupes de spécialistes qui n'ont pas de membres d'Indonésie. Par conséquent, l'atelier des chercheurs et des conservationnistes sur la faune sauvage indonésienne a pour but cette fois de maximiser les capacités de l'Indonésie dans le domaine de la conservation internationale. Selon Wiratno, comme l'un des pays de la méga biodiversité, l'Indonésie est devenue une préoccupation pour les chercheurs de la faune sauvage et produit des centaines de nouvelles découvertes. Divers chercheurs indonésiens spécialisés dans la faune sauvage ont maintenant adhéré à de nombreuses associations professionnelles regroupant des chercheurs et des activistes de la conservation sur le terrain, telles que l'Union indonésienne d'ornithologues, l'Association indonésienne de herpétologie, l'Association entomologique indonésienne, l'Association indonésienne de biologie, le Forum indonésien des orang-outans, le Forum Harimau Kita et associations professionnelles telles que l'Association vétérinaire indonésienne. La Commission de la survie des espèces a été créée par UICN qui est devenue un réseau mondial de milliers d'experts bénévoles dans le domaine de la biodiversité qui repose sur des bases scientifiques. La Commission de survie des espèces, ou SSC, évalue le statut des espèces, élabore des plans et des stratégies pour les actions de conservation des espèces, prépare des directives techniques et formule les politiques de l'Union internationale de conservation de la nature. En général, la Commission de survie des espèces fait la promotion des connaissances techniques, le conseil et des directives politiques susceptibles d'influencer la mise en œuvre d'actions de conservation dans le monde entier. Rinexo Sukmadi, doyen de la faculté de foresterie de IPB, a déclaré que les ateliers de cette année sur les chercheurs et conservationnistes de la faune sauvage pourrait relier le réseau de chercheurs aux décideurs. Il renforce également les synergies avec les parties concernées pour résoudre divers problèmes de conservation. Wiratno espère que cette réunion pourra renforcer la participation de chercheurs indonésiens à diverses institutions internationales, notamment l'Union internationale de conservation de la nature, à travers la participation au groupe de spécialistes selon les besoins de l'Indonésie. C'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Tengok kita, hey dia jeling mata. Duma senyum lagi, Amboy nona manis sekali. Dia mengernyit, Amboy ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey, dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Indonesia.
Chers auditeurs et auditeurs, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Une fille adolescente chantée par Marcel. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel intitulé La danse du masque de Losari. Le Festival international du masque a eu lieu dans la ville de Solo du 5 au 6 juillet 2019 à Pendapi Gede, à la mairie Surakarta. Ce festival est un événement international annuel qui présente le concept de l'art du masque et de l'artisanat du masque. Un certain nombre d'arts sont présentés, dont la danse qui raconte la fondation du royaume de Singo Barong à Alas Lodoyo, et cette danse a été interprétée par des danseurs de studio d'art de Singo Yogo. Il y a aussi la danse de Losari qui est dansée par le studio d'art de Purwa Kencana, tandis que les danseurs de Tejo Dance ont dansé la danse de Bapang et du masque Sengwanda. Puis la danse de Fragment a été dansée par les danseurs de studio d'art de Wijaya Kusuma. L'une des danseuses au Festival international du masque, à savoir la danse du masque Losari. La danse du masque dont le style est Losari a été créée par Panembahan Losari ou Prince Angkawijaya il y a environ 400 ans. Cette danse a été créée au début pour répandre l'islam. Dans sa présentation, le masque de Losari présente la caractérisation de l'histoire du Panji. C'est différent de la danse masquée de région Cirebon qui présente le développement de la nature humaine qui conduit à des valeurs philosophiques. La danse de masse de l'Ossari possède trois caractéristiques de mouvement, à savoir le mouvement galéon de Naga César, ressemblant à l'attitude de Kathakali Anandi, et de jambes pendantes qui ressemble au pied de la statue de Shiva comme Nataraja de Landi, qui oblige les danseurs à montrer ses pieds sur le côté. Le centre de la danse du Mas Losari, comme le Mas de notre région, n'est autre que centré sur la boîte placée sur la scène. On pense que la boîte a des pouvoirs surnaturels pour les danseurs. Il existe la corrélation entre le mouvement avec des priorités sur scène. Chers amis, voilà l'édition du magazine culturel pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.
Voice of Indonesia.
Tersenyum lagi.
C'était une chanson intitulée Sourire, chantée par Abi Rama. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, nous allons présenter l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, informant sur l'innovation du produit Gemukti. Cinq étudiants de l'Université Pajajaran, à savoir Muhammad Imam Muhajir, faculté de mathématiques et des sciences naturelles, Ajal Falful Abror, faculté des mathématiques et des sciences naturelles, Régis Admar Youssouf, faculté des mathématiques et des sciences naturelles, Sandy Sujatmiko, faculté des sciences sociales et politiques, et Diana Chitra Ayu, FICOM, ont réussi de développer des produits à base de larves de moustiques à partir des principaux ingrédients issus des déchets de zeste de citron vert. Les 100 étudiants ont développé un produit contre les moustiques appelé Jentik Nyamuk Mati, Jumukti. Selon Imam Muhajir, l'un des étudiants qui ont développé Jumukti, la peau de chaux a été choisie car elle a étudié la littérature, sans laquelle le contenu de métabolites secondaires actifs contre de nombreuses larves de moustiques était contenu dans la chaux. De plus, le jus de citron vert est l'ingrédient principal en raison de son utilisation accrue. Cela a été vu par les vendeurs de jus de citron vert qui ont jeté la peau juste comme ça. Ainsi, outre le but de réduire le nombre de cas de fièvre hémorragique de la dengue en Indonésie, Jemukti devrait également permettre de réduire les déchets de gestes de chaux. Jemukti prend la forme de comprimés et de fonctions d'éradication des enfants de moustiques ou utilise la technologie effervescent. Grâce à cette technologie, les utilisateurs n'ont pas besoin de mettre les larves de moustiques dans des flaques d'eau, mais simplement en plongeant la tablette est en se dissolvant automatiquement dans l'eau. Jemukti est formulé d'ingrédients naturels sous forme de gestes de chaux, qui est considéré comme une formule étant plus sûre que les autres produits à base des larves des moustiques qui utilisent généralement des produits synthétiques. Jemukti a ainsi mieux sécurisé et l'impact négatif est moindre si l'eau mélangée au produit est avalée par les humains. Les ingrédients utilisés sont plus sûrs grâce à l'extrait d'écorce d'orange, tandis que les produits à base de larves des moustiques sur le marché sont fabriqués à partir d'ingrédients synthétiques contenant de l'organophosphate qui est dangereux pour l'homme. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur.
tahu seberapa dalam hatimu. Ku tak ingin engkau ragu tentang rasaku ini padamu. Ku tak ingin engkau jauh. Ku mau kamu, kamu, kamu selalu ada dalam hatiku. Ku mau kamu, kamu, kamu hiasi ruang rindu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Toi » chantée par Wendy Mark. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs du service international de RRI, la Voix d'Indonésie, où que vous soyez. Bienvenue au programme régulier, le magazine musical, un programme qui vous présente la musique indonésienne, soit traditionnelle ou pop. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter une chanson de Vina Panduwinata intitulée « September Ceria ». Cette chanson est dans le premier album de Vina, intitulé « Sham », lancé en 1982. Cette chanson créée par James F. Sunda a connu un succès à cette époque et a popularisé Vina Panduwinata. Cette chanson était souvent chantée par de jeunes couples amoureux. Cependant, pour le compositeur James F. Sunda, elle a sa propre histoire. Selon lui, en septembre, le monde entier a chanté un changement. Le pays qui a quatre saisons entre en automne, tandis que les pays du sud entrent dans le printemps et les pays tropicaux entrent dans la saison des pluies. Ainsi, le changement du temps devient plus frais. Selon James, il se sent bien pour composer une chanson. Bon, serviteur, voici donc une chanson de Vina Panduwinata intitulée « September Ceria ». Bonne écoute.
Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar wujudlah kasih juga. Nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala butiran hujan mengusik mimpi yang seru, kau hadir di sini di batas harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama.
Hatiku berdebar seperti melodi yang indah. ku gembira melangkah di udara. Papas pembawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga. Aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Semanis madu, jika nampak rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga. Aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku
of Indonesia.
Seirama alunan lagu, aku
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.